RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage dans le sud-est du Nigeria. Aujourd'hui, l'État de Cross River voit affluer chaque semaine des réfugiés fuyant l'insécurité dans les régions anglophones du Cameroun. Selon l'Agence nigériane de gestion des urgences, il y aurait au moins 33 000 réfugiés dans l'État de Cross River et tout autant dans les États de Benue et de Taraba. Les besoins sont considérables, les communautés locales et les humanitaires sont dépassés par cette situation. Alors, quel impact cette crise a-t-elle au niveau local? Combien de temps cela est-il tenable? La crise du Cameroun anglophone s'exporte au Nigeria. C'est un grand reportage signé Binta Diagne.
Amaigrie, le visage ridé, Obimavian affiche un air grave lorsqu'elle parle de l'arrivée des forces de sécurité une fin d'après-midi du mois de novembre à Oboni, un village situé dans le Cameroun anglophone.
Il y avait des tirs contre les habitants. Ils ont tué des villageois, les personnes couraient. Certains se sont cachés, ils les ont poursuivis dans la forêt. J'ai vu des personnes s'enfermer dans leur maison. Ils sont entrés, ils ont tiré et les ont tués. Une personne a tenté de s'enfuir, elle est morte en chemin.
Vous dites que des militaires sont venus dans votre village. Vous les avez vus brutaliser les gens?
Did you witness that?
Yes. Yes.
Oui, ils ont tiré sur les villageois, ils ont tué beaucoup de monde. Ils ont aussi tiré sur des femmes. Les vieilles femmes couraient pour se sauver. J'ignore dans quelle direction elles sont parties. Ils ont brûlé des maisons, ils ont tout saccagé. Il n'y a plus la paix dans notre village. Les gens ont fui au Nigeria.
Apeurés, les villageois traversent la forêt qui les mène tout droit au Nigeria. Dans la précipitation, les habitants partent les mains vides, sans avoir le temps de plier bagages et de prendre un minimum de nourriture. Ces personnes marchent à travers les bois sans boussole. Il y a là beaucoup de femmes qui tiennent dans leurs bras, leurs enfants épuisés par la marche, à l'image de Judith, la trentaine.
It was difficult for us to leave.
C'était très difficile de quitter notre village pour aller au Nigeria. Il n'y a pas de route. De nombreuses femmes enceintes sont mortes en chemin parce qu'elles n'ont pas reçu les soins nécessaires d'une sage-femme. Certaines mères de famille ont perdu leurs enfants. Souvent, elles ont au moins 5 enfants. C'est difficile de tous les porter en même temps dans la forêt. On est resté 2 à 3 semaines dans la forêt. J'ai vu beaucoup de gens mourir de faim. Il n'y a pas d'eau, c'est la saison sèche. Même ici, nous ne sommes pas en sécurité. Certains sont retournés au village pour avoir des nouvelles de nos proches. Mais ils ne sont jamais revenus. Ils sont morts, ils les ont tués. Donc nous ne sommes pas en sécurité. Même au Nigeria, on peut mourir à tout moment.
So we are not safe. Even when we are here, we know that we are not safe. We can die at any time.
La situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun s'est crispée ces 2 dernières années. Tout est parti d'un mouvement social initié par les avocats le 11 octobre 2016. Les magistrats réclament alors l'application dans leur région du common law, ce système judiciaire hérité de la colonisation britannique. Car jusque-là, les avocats affectés dans les 2 régions anglophones du Cameroun maîtrisent uniquement le code civil légué par la colonisation française. Puis en novembre 2016, les enseignants se mettent aussi en grève. Ils dénoncent notamment la nomination de professeurs francophones dans des écoles où l'enseignement est délivré en anglais. James, un adolescent du village d'Akwaya, dans le sud-ouest du Cameroun, s'est laissé porter par ce mouvement ambiant de protestation. Depuis tout petit, il entend parler du manque d'infrastructures et du manque d'investissement dans les régions anglophones. Cet élève en classe scientifique a le sentiment que sa région a été marginalisée.
We were treated bad for 30 years. We have no roads.
On se sent oublié, nous n'avons pas de route. Dans mon école, il n'y a même pas de laboratoire. Il n'y a pas assez d'enseignants et peu de matériel. Nos professeurs pensaient que la meilleure manière de se faire entendre était de se mettre en grève.
Le 1er octobre 2017, des leaders de différents mouvements politiques proclament de manière unilatérale l'indépendance de leur région. James décide alors de soutenir ses amis et rejoint une grande manifestation organisée pour l'occasion. Mais cette marche est, dit-il, durement réprimée par les forces de sécurité. James devient une cible.
On the 1st of October 2017, what to participate as
Le 1er octobre 2017, j'ai décidé de participer à la marche aux côtés des jeunes et des étudiants d'Akwaya pour célébrer notre indépendance. Cette manifestation a été réprimée par les soldats. Moi-même, je suis une victime. Les autorités nous ont ciblés. Elles ont dressé une liste de jeunes qu'elles considèrent comme des meneurs de cette marche. Le but était de nous maltraiter. Les militaires nous ont poursuivis. Ils ont tenté de me tirer dessus. Mais par chance, ils ne m'ont pas tué. Plusieurs de mes amis ont été tués et d'autres ont fui.
Les bullets ne m'ont pas même affecté. Some of our friends were killed and some of us were escaped.
Pour l'armée camerounaise, ce climat de violence serait une machination, une pure manipulation, selon les mots du colonel Didier Badjek, le porte-parole de l'armée camerounaise.
Je pense que ce sont des populations qui sont instrumentalisées. On a donné l'impression que c'était des militaires qui prenaient pour cible des populations, mais ce n'est même pas fondé sur le plan tactique. Dans les opérations qui sont mises en place aujourd'hui, il y a des structures qui sont mises sur pied de telle manière à ce que les forces de défense, n'est-ce pas, ne percutent pas les droits humanitaires. Je dois vous dire que tous les militaires qui sont surpris, ou les gendarmes, qui sont surpris d'exactions sur des personnes qui sont interpellées, qui doivent être présentées au niveau du procureur de la République, eh bien, ils sont sanctionnés.
Si violence il y a, c'est pour répondre à une agression, ajoute ce responsable militaire.
Il y a des terroristes qui massacrent. C'est le mot qu'il faut utiliser, qui massacrent des militaires lorsqu'ils en ont la possibilité, hein, et qui tirent sur des militaires comme s'ils étaient de simples huissiers. Et dans cette posture-là, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire, sinon que de répondre proportionnellement et afin de les dissuader de continuer cette besogne qui est macabre et de se remettre à respecter la loi comme tous les citoyens camerounais devraient le faire.
Passer la frontière, la peur se lit toujours sur le visage de ces Camerounais qui ont fui les violences. Fin 2017, au moins une cinquantaine de personnes sont interpellées dans plusieurs localités du Cross River au Nigeria avant d'être finalement relâchées. Il s'agit là de réfugiés qui avaient pourtant demandé l'asile. Puis en décembre, les autorités nigérianes arrêtent à Abuja, la capitale fédérale, des avocats et des professeurs ayant le statut de demandeurs d'asile. Tous sont considérés comme des intellectuels du mouvement séparatiste du Cameroun anglophone. Parmi eux, Julius Ayuktabe, présenté comme le leader du Southern Cameroun. Le Haut Commissariat aux réfugiés a adressé une lettre de protestation aux autorités nigérianes pour les rappeler à leur devoir de protection vis-à-vis des réfugiés. Werner Hoffs, expert juridique au HCR.
Une partie de ces réfugiés a été emprisonnée dans l'état de Taraba à Jalingo. 12 autres personnes étaient, elles, enfermées à Abuja. Nous avons pu leur rendre visite à Abuja. Il s'agissait de personnes qui avaient déjà le statut de réfugié ou de demandeur d'asile. Les autorités nous avaient alors assuré qu'elles respecteraient leurs engagements liés à la Convention de Genève. Mais une semaine plus tard, un beau matin, on apprend l'extradition de 47 personnes vers le Cameroun. Nous n'avons pas été avertis de cette extradition, donc nous avons écrit au gouvernement pour que cela ne se reproduise plus.
Malgré ces mesures de prévention, pour de nombreux réfugiés, l'extradition de ces personnes vers le Cameroun a jeté un froid. Les réfugiés vivent dans un climat de suspicion et de défiance. Ils craignent d'être interpellés ou expulsés vers leur pays d'origine. Ayuk Oji, un réfugié d'une trentaine d'années.
En tant que réfugié, je dois être protégé. Mais j'ignore pourquoi les autorités nigérianes ont arrêté nos leaders. J'ai peur. Si des leaders peuvent être arrêtés, alors que peut-il m'arriver à moi, simple réfugié ?
Dans certaines localités, les réfugiés ont pu être logés dans des infrastructures publiques. Mais ces personnes vivent dans la précarité. Au centre administratif d'ICOM, des enfants jouent autour du bâtiment. Cela fait plusieurs mois que ces jeunes n'ont pas été à l'école. Et ici, on manque de tout. Comme le déplore Judith, qui est réfugiée depuis novembre au Nigeria.
There are many kids and they are not going to school. Why? Because there is no school.
Il y a beaucoup d'enfants ici et ils ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'établissement scolaire, il n'y a pas d'argent pour s'occuper d'eux. J'ai vu de nombreux enfants malades et certains même sont décédés parce qu'il n'y a même pas d'argent pour acheter des médicaments pour les soigner. C'est difficile pour les enfants et aussi pour les femmes enceintes. Elles meurent de maladies.
Même récit de détresse exprimé par cette vieille dame.
J'ai apporté environ 23 personnes.
Je suis venu ici avec 23 personnes. Nous sommes ici avec nos enfants. Des personnes nous ont généreusement soutenus. Elles nous ont mis dans un appartement, mais c'était provisoire, pour un mois seulement. Puis nous sommes venus dans ce bâtiment. Ces personnes continuent de nous aider. Elles nous apportent à manger, des vêtements et des matelas. Mais tout le monde n'a pas de matelas. Les gens continuent de dormir au sol. Plusieurs personnes même n'ont pas de matelas. Il y a beaucoup trop de monde ici. Ce lieu ne peut pas contenir tout le monde. Donc il y a des réfugiés qui errent dans la rue.
La majorité des réfugiés est livrée à elle-même. À l'image de Drusilla Osang, une ancienne commerçante du village de Kadjifou au Cameroun. Avec la crise, cette jeune a tout perdu. Elle loue un petit appartement avec d'autres personnes de son village d'origine.
C'est difficile car tout est nouveau pour nous ici. Nous parlons le même dialecte, mais leur accent est différent. Nous ne comprenons pas toujours la langue. Comme nous n'avons pas d'argent, on n'est pas en mesure de monter un petit commerce. On mange seulement une fois par jour, on a faim. On loue une maison, nous vivons assises dans la même pièce, on est mal à l'aise. Et nous devons tout acheter avec nos maigres ressources, la nourriture et même les habits.
Nous sommes au village d'Okwango, près de la frontière camerounaise. Dans une concession, plusieurs femmes s'activent aux tâches domestiques. On pile le mil, on étend le linge et à l'intérieur de la maison, on range. Depuis novembre, Tiffy Delis Kadjang héberge plusieurs réfugiés aux côtés de ses 8 enfants.
J'héberge plus de 15 réfugiés chez moi et ce n'est pas facile de nourrir tout le monde correctement. Pour dormir, c'est difficile aussi. Il n'y a que 2 pièces dans ma maison. On n'avait pas assez de matelas. Je leur ai prêté mon lit et je dors par terre.
Les habitants de Kwango redoublent d'efforts pour aider les réfugiés. Par exemple, les villageois se sont cotisés pour permettre de scolariser les enfants des réfugiés. Frédéric Bassi, l'un des habitants qui a plaidé la cause des réfugiés auprès de l'administration locale.
Les enfants des réfugiés fréquentent l'école primaire et le collège du village. Nous avons demandé à la direction de l'école de les admettre. Nous leur avons assuré que nous allons leur donner des livres, payer leurs frais de scolarité et leurs uniformes.
Ici, les villageois pratiquent quasiment tous l'agriculture. Ils cultivent notamment le manioc, ils font pousser des noix de coco et entretiennent de grandes plantations de bananes. Mais à cause de l'enclavement, les paysans se contentent de consommer leur production. Douglas Adja, un jeune paysan, constate avec amertume que quasiment tous les foyers ont épuisé les réserves contenues dans les greniers.
Nous n'avons pas assez de nourriture, nous vivons de l'agriculture de subsistance, nous mangeons surtout du riz. Or le riz nous revient cher à cause du coût des transports. Pour un sac de riz, il nous faut dépenser 1200 naira. À cela s'ajoute le transport, soit 1000 naira. Ici, nous cultivons le manioc. On plante en fonction de ce que l'on va consommer l'année suivante. Mais nous n'avons pas prévu toutes ces arrivées. Et nous avons déjà consommé la production de cette année. On ne sait pas comment on va faire. On ne peut pas recevoir des gens qui meurent de faim et ne pas partager avec eux nos réserves. Ces gens traversent une situation vraiment difficile.
Okwango est un village enclavé au milieu de la forêt. Pour y accéder, il faut traverser à moto des pistes sinueuses. Il n'y a pas de réseau téléphonique, le poste de santé est quasiment vide et les villageois n'ont pas accès à l'eau potable. Dans un tel contexte, l'arrivée des réfugiés n'a fait qu'amplifier tous ces problèmes. Chief Godwin.
Water from the stream, that is where we drink. Nous buvons l'eau du ruisseau. Bon, cela nous convient, on se contente de ça. À une époque, nous avons tout de même noté des cas de choléra à cause de la qualité de l'eau. L'eau avait même changé de couleur. Nous espérons donc que les autorités vont se pencher sur cette question et nous aider à avoir de l'eau potable.
La crise camerounaise semble déteindre sur l'économie locale, qui dépend en grande part des échanges commerciaux de part et d'autre de la frontière. Au marché d'Ikom, les vendeuses de légumes attendent en vain de probables clients. Les activités tournent au ralenti ces dernières semaines et Brenda et tout voient ses stocks de farine de gari s'entasser sur ses étals. Touchés par la crise, ses clients n'ont plus les moyens d'acheter.
La plupart de mes clients viennent du Cameroun. Depuis que la crise a éclaté chez eux, l'économie est à plat. Avant, quand les clients camerounais venaient, on vendait bien. Ils achetaient beaucoup de produits et repartaient. Mais les choses ont changé. Avant la crise, je gagnais au moins 15 000 naira par jour. Mais maintenant, cela ne dépasse pas les 9 000 naira. Je sais que l'économie va mal. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Alors j'ai baissé mes prix. Avant, je vendais la bassine de gari à 6 000 naira. Aujourd'hui, je la vends entre 4 800 et 5 000 naira.
Quel avenir envisager pour les réfugiés qui semblent partis pour rester un certain moment au Nigeria ? Faut-il les placer dans des camps pour soulager les populations locales ou bien leur attribuer des terres et les soutenir dans des activités agricoles afin d'améliorer leurs conditions de vie ? Dans certaines localités, cette option d'intégration est en discussion avec des chefs coutumiers. Ce serait une manière, comment un humanitaire, de donner les outils pour rendre les réfugiés autonomes et leur éviter de s'installer dans une posture d'assistance. Mais pour l'heure, dans le Cross River, l'idée de créer des camps est toujours envisagée. Les humanitaires des Nations Unies misent sur la construction de deux camps de réfugiés à Ikom et Boudou. John Inaku, le directeur du service nigérian de gestion des urgences pour l'état de Cross River.
L'idée de construire des camps, c'est de relocaliser tous les réfugiés dans un seul lieu. Il nous sera plus facile de leur venir en aide. Cela devrait nous éviter d'avoir les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement dans certaines communautés rurales trop éloignées, où les habitants ont du mal à acheminer de la nourriture pour subvenir aux besoins des réfugiés. Encore une fois, certains réfugiés vivent dans des conditions difficiles, dans des zones enclavées, où la saison des pluies complique l'envoi d'une aide humanitaire.
Les réticences des autorités du Cross River ont retardé ce projet. Les autorités ont encore à l'esprit la difficile gestion d'autres réfugiés, ceux de la péninsule de Bakassi, qui 10 ans après la sécession de leur territoire, vivent toujours dans la précarité. Enfin, l'autre option envisagée, c'est le retour au Cameroun. Mais englués dans cette crise, les réfugiés ont de leur côté bien du mal à se projeter. À l'image de Drusilla, la jeune commerçante camerounaise, traumatisée par le climat d'insécurité.
J'aurais vraiment du mal à vous dire. Personnellement, je rentrerai uniquement 5 mois après le retour de la paix. Les autorités nous disent de rentrer. Elles disent que la sécurité est revenue, mais je ne suis pas convaincue. Je connais des gens qui sont retournés, mais ils ont découvert que les militaires sont revenus, qu'ils ont attaqué de nouveau la ville et que des maisons ont été détruites. Ils s'en sont même pris à des lieux sacrés. Ils ont pillé le domicile du révérend, ils ont volé des objets de culte et des appareils domestiques. Donc moi, je ne sais pas quand je vais rentrer. Et si cette ville reste sûre, je préfère rester ici pour le reste de ma vie.
La crise du Cameroun anglophone s'exporte au Nigeria. Un grand reportage de Binta Diagne, réalisé par Pierre Chaffanjon.